Jean 5, 17, c'est un de mes versets préférés. Ça a des conséquences énormes pour le travail que nous faisons. Et j'espère que ce matin, en parlant de Jean 5, 17, que ce verset maintenant, quand je dis Jean 5, 17, quand vous entendez parler de ce verset, vous allez tout de suite le connaître, le reconnaître. C'est un verset qui est court, mais qui dit long sur le travail que nous devons faire. Mais Jésus leur répondit, « Mon Père agit jusqu'à présent. » Moi aussi, j'agis. J'aimerais ce matin aborder avec vous un aspect très important du ministère, un aspect qui m'interpelle profondément, je dirais de plus en plus. Et c'est la différence entre travailler pour Dieu et travailler avec Dieu. Parce que, bon, je vous connais, hein, c'est vrai qu'on était très, la terre était dans la joie ce matin. Hein, c'était la terre. Sauf que depuis que je suis là, j'ai parlé avec plusieurs d'entre vous, et bien la terre n'était pas dans la joie. Excuse-moi, mais parce que demain, vous rentrez chez vous, ah ben ce ne sera pas ça. Il y en a plusieurs qui, quand je leur ai posé la question, alors comment ça va? Ah, pas trop bien, pas trop bien. Il y en a un qui m'a dit, on vit une rentrée difficile. Il y a un autre qui m'a dit, je vis un drame familial terrible. Et un autre, j'ai dit, et je n'ai pas eu le temps de comprendre ce que c'est, mais il me le dira, comment ça va? Pas trop bien. Et la réalité de vos vies, c'est ça. Alors, c'est vrai que ça fait du bien, on se défoule, on crie Alléluia, et on saute, et puis demain, ben, on doit retrouver la réalité des choses. Et c'est pour ça que je veux vous parler comme je vous parle ce matin. Parce que travailler avec Dieu, c'est pas du tout pareil que travailler pour Dieu. On utilise souvent l'expression « l'œuvre de Dieu ». Hein, vous entendez ça? C'est quand on parle de l'œuvre de Dieu, eh bien, souvent, on parle des activités de l'Église. C'est l'Église, l'œuvre de Dieu, le déroulement de son programme, son fonctionnement. S'impliquer dans une Église, c'est s'impliquer dans l'œuvre de Dieu. On a à cœur l'œuvre de Dieu. Il faut soutenir l'œuvre de Dieu. On parle comme ça, hein? Alors, Jésus nous donne une explication. Qu'est-ce que l'œuvre de Dieu? J'aimerais revenir à ça. Et ça se trouve dans Jean chapitre 6, versets 28 et 29. Et peut-être Jésus pensait à l'œuvre de Dieu différemment de nous aujourd'hui. Ils lui dirent, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? C'est une des questions les plus ridicules qu'on a jamais posées à Jésus. Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Ça n'a rien à voir avec nos programmes d'église. Ça n'a rien à voir avec notre fonctionnement, ça n'a rien à voir avec nos défis financiers. L'œuvre de Dieu, c'est afin que vous croyiez en celui qui l'a envoyé. Ça veut dire que l'œuvre de Dieu, c'est quelque chose qui doit se passer en nous, qui produit en nous la foi, qui permet à Dieu de faire ses œuvres. Et si je dis que c'est une question ridicule, eh bien c'est tout simplement parce que ce n'est pas possible que ces personnes-là puissent faire l'œuvre de Dieu. Allô? Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire les œuvres de Dieu? Eh bien, vous ne pouvez pas les faire. Vous ne pouvez pas les faire, moi je ne peux pas les faire. Le seul qui peut faire les œuvres de Dieu, c'est Dieu lui-même. Soyons clairs par rapport à ça. Ils voulaient faire une œuvre pour Dieu, quand l'œuvre de Dieu, c'est le travail qui se passe en eux et dans les autres. Quand Dieu agit, c'est pour que cela produise de la foi qui permet à Dieu de sauver une âme. Son plan tourne autour de ça, chers amis. Et tout ce qui ne contribue pas à ça, eh bien, ça, je suis désolé, mais ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Alors, l'œuvre de Dieu, tout ce qu'on fait, n'a qu'un sens que si ça contribue à ce que la foi naisse dans un cœur d'un être humain et qui conduit au salut. Et c'est tout le problème des institutions chrétiennes, depuis des siècles d'ailleurs. Les institutions chrétiennes, ce sont des boîtes qui ont été montées par les hommes pour Dieu. Aujourd'hui, ça tourne sans Dieu. Non, mais ça tourne sans Dieu. Ce n'est pas Dieu qui les a créés, c'est les hommes qui les ont créés pour Dieu. Et maintenant, ceux qui les servent le font sincèrement, je le crois, en disant je fais ce que je fais pour Dieu. Mais Dieu, oui, ce n'est pas son œuvre. Ce n'est pas son œuvre. C'est l'œuvre des hommes pour Dieu. Mais ce n'est pas Dieu qui agit, soyons clairs. Et ça me trouble quand même, parce que je me dis, combien de fois nos cultes maintenant n'ont plus besoin de Dieu? Mais franchement, on sait comment faire. On chante tous un certain nombre de chants.
C'est
On a préparé notre sermon parce qu'on a une Bible et puis tous les sites, les applications. Et puis là, on sort des trucs formidables hein, maintenant avec Google. Alors parlons pas du Saint-Esprit. Et alors, bon, on a l'accueil. Toi, tu seras à l'accueil, toi, tu seras à l'accueil. Et puis, toi, tu conduiras la louange et toi, tu fais la batterie. Et puis, hop, on fait un culte. Et à la fin, Seigneur, merci. Amen. Bon dimanche. Tout le monde rentre chez lui en disant, super. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Oh, ben, pas grand-chose. C'est nous qui l'avons fait. C'est pas Dieu qui a chanté, c'est nous qui avons chanté. C'est pas Dieu qui a prêché, c'est nous qui avons prêché. Et moi, je dis, il y a seulement deux endroits dans un culte où on peut vraiment voir Dieu faire un truc. Un, c'est au moment de l'adoration, une adoration libre, une adoration où les gens sont touchés, sont en communion avec ce Dieu qui s'est permis d'être palpable au milieu des hommes. Alors, si vous, chez vous, vous chantez 6 chants, 7 chants, 8 chants, 10 chants, et après, ben, je dis, maintenant, vous pouvez tous vous asseoir. Oh ben, Dieu... Parce que finalement, toutes les confessions, eh ben, chantent. Alors, chanter, ça ne veut rien dire. L'autre moment, c'est lorsque, eh bien, on fait un appel au salut. Ben, c'est risqué, un appel public. Et si personne répond, ben, c'est toi qui as l'air un peu ridicule devant tout le monde. Alors, on arrête de faire des appels pour le salut. Parce qu'on ne veut pas se sentir ridicule devant en public. Et combien d'églises évangéliques ne font jamais plus d'appel au salut? Moi, j'en fais tous les dimanches. Tous les dimanches. Même quand il n'y a personne inconverti, j'en fais un. On ne sait jamais. Il y a des chrétiens qui ont besoin de se convertir. Tu vois? Pourquoi? Parce que je me donne une chance de voir une œuvre de Dieu. Mais le jour qu'on n'est pas, on ne veut plus de risques, le jour où on dit maintenant on reste dans la sécurité de ce que nous savons faire, c'est le jour où l'œuvre de Dieu pousse des ailes et s'envole. Oui, travailler avec Dieu, c'est tout un défi. Et pourtant, Paul en parle dans 2 Corinthiens 6, verset 1, « Puisque nous travaillons pour ou avec ?»« Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. » Donc, nous sommes appelés à travailler avec un Dieu agissant. Jean 5, 17. « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » Alors pourquoi vous priez que Dieu agisse? Seigneur, agis! Ah, mais j'agis, quoi. Seigneur, fais quelque chose! Je fais. Plus haut. Comme ça? Plus haut encore, je l'avale. Voilà, c'est bon. Alors, quand on est arrivé à Paris, toute première fois, 84, on est allé au Flunch. Ah oui, non, mais on a appris la culture française, Flunch, tu vois. Là où on mange des frites froides, ça c'est... Et là, on était invité par le pasteur qui était à l'époque l'église phare de toute la France. Si je vous disais le nom de l'église, certains d'entre vous vous connaîtrez. C'était la référence en France. J'avais une entrée là, et puis on me demandait de venir prêcher dans cette église-là. Donc le pasteur, eh bien, il voulait m'inviter dans quelque chose de classe, tu vois, à Paris. Donc il m'a invité au Flunch, tu vois. Alors, et donc moi, je découvre la France. J'étais dans cette logique de explique-moi un peu. Hein. Et Denise, qui était là, elle ne comprenait rien parce qu'elle arrivait d'Australie, ne parlait pas un mot de français. Donc elle était là en train de manger, tu vois. Et moi, je pose la question au pasteur. J'ai dit, Dieu, que fait-il en France aujourd'hui? Il s'est arrêté quelques instants, il m'a regardé et il m'a dit, rien. Voilà ce qu'il m'a dit. Et après, il a rajouté, Dieu a fait, on a connu le réveil, et Dieu fera, on connaîtra le réveil. Mais en ce moment, il ne fout rien. Alors moi, je me suis dit, mais alors comment il arrive à servir un Dieu fainéant? Un Dieu qui ne fait rien. Peut-être qu'il justifie en disant, ouais, je suis fidèle, tu vois. Je suis en train de servir l'Église, je vis dans l'espérance, un jour je me réveille et puis ce sera mieux, tu vois. Mon Père agit jusqu'à présent, Moi aussi j'agis. Apprenez, dites ça après moi. Mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi j'agis. Encore. Mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi j'agis. Jean 5, 17. Une dernière fois. Mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi j'agis. Ça veut dire que Dieu est en train de faire quelque chose. Et si tu réponds « Dieu ne fait rien », c'est que tu n'as rien compris, toi. Alors, il faut se poser la question. Si aujourd'hui même, dans ma circonstance, dans ma situation, qu'elle soit glorieuse ou peu glorieuse, le Père fait quoi? Jésus fait quoi? Alors, pour comprendre la réponse à cette question, il faut comprendre le mot-clé dans l'action de Dieu. Et le mot-clé dans l'action de Dieu, c'est le mot « attirer ». C'est un mot fort, « attirer ». Parce que ça, ce n'est pas le mot de l'Ancien Testament. Le mot de l'Ancien Testament, c'est « obliger », c'est « imposer ». Mais le mot-clé du Nouveau Testament, c'est « attirer », c'est « inviter ». On le retrouve dans Jean 6, 44. Jean 6, 44, Jésus qui parle « Nul ne peut venir à moi ». Si le Père qui m'a envoyé ne, il est beau ce mot, hein, attirer. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et si le Père ne l'attire pas, eh bien il ne viendra pas. Pour toute ta prière, tous tes efforts, toute ta volonté et ta foi, si le Père ne l'attire, il ne viendra pas. Et si tu veux voir des gens venir, eh bien tu dois aller chercher ceux que le Père attire. Ah, franchement, ce n'est pas profond ça, hein. C'est vraiment en surface. Mais c'est quelque chose qu'on n'a pas compris. Parce qu'on croit avec toute notre foi et notre onction et la puissance de la parole qu'on va les attirer à Jésus. Si le Père ne l'attire, tu peux te casser les dents sur un cas dur, tu peux perdre des années, tu peux perdre ta vie voulant gagner des gens qui sont pour l'instant ingagnables, parce qu'ils manifestent aucune expérience de l'aimant qui attire un objet métallique. C'est ce mot-là qui est utilisé. On retrouve ce même mot dans Jean 12, versets 32 et 33. « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Ce mot « attirer » est important. C'est la force magnétique, spirituelle. La force de Dieu qui pèse sur le cœur d'un être humain. C'est quand même étonnant que Dieu a mis dans l'être humain, dans sa constitution, une capacité d'être attiré. On ne se rend même pas compte à quel point nous sommes attirés.
Oui.
Est-ce que, ici, dans cette salle, est-ce qu'il y a des personnes ici qui ont vécu tomber amoureux? Alors, ça a été comment votre expérience? C'était fort, hein? Est-ce qu'il y a eu quelqu'un qui vous a dit, eh bien, maintenant, tu vas avec elle?
Non.
Maintenant, tu vas avec lui? Non. Eh bien, comment que ça se fait que vous vous fréquentez alors? C'est dingue, hein, cette histoire. Dieu a mis en nous cette capacité d'être attiré envers une autre personne et une capacité d'être attiré envers Dieu. Incroyable capacité d'être attiré. Moi, je me souviens, quand j'ai commencé, j'étais pasteur des jeunes dans une grande église en Australie, et puis Denise était au comité jeune, et puis j'ai commencé à avoir certaines vues sur elle. Et alors, j'ai commencé à multiplier les réunions du comité, vous voyez. Et puis un soir, quand il y avait comité le soir, j'ai dit, écoute Denise, j'ai des choses à discuter avec toi, et si on allait manger un morceau ensemble? Elle m'a dit, non, ce n'est pas nécessaire. J'ai dit, mais... elle n'a pas compris. Et finalement, elle a commencé à comprendre, mais je crois qu'il pourrait être intéressé. Et que, j'étais attiré. Et alors, on allait faire une sortie avec tous les jeunes, et après, je devais ramener Denise à la maison à la fin de la soirée. Toi. Bon, on s'arrange comme on peut. Hein. Non, non. Et alors, je me souviens, elle habitait avec cinq jeunes femmes chrétiennes. Et moi, j'arrivais dans la voiture, et Denise était à côté de moi, et puis on arrivait, et puis, je coupais le moteur, et je disais, écoute, Denise, bonne soirée. Hein. Oui, et puis elle me disait, bonsoir. Puis une heure plus tard, écoute, Denise, bonne soirée. Hein. Elle était toujours là. Je dis, Denise, écoute, ça me fait un peu tard. Alors, il faudrait vraiment que tu rentres. Oui, il faudrait que je rentre, oui. Une heure plus tard, Denise, t'es toujours là? C'est dingue. Quand on est attiré, on ne se contente pas de textos. Quand on est attiré, quelques emails, ça ne suffit pas. Il faut qu'elle soit là. Tu vois, on est attiré. Attiré, c'est fort, ça. C'est fort. À La Réunion, tu vois, c'est un choc culturel pour moi d'aller vivre à La Réunion. Il y a des choses vraiment étonnantes. Tu sais, je voyais tous ces hommes que quand ils conduisent, ils mettent leur bras gauche et qui pendent par la fenêtre ouverte. Tu vois. Je dis, mais comment ils changent les vitesses alors, tu vois? C'est peut-être avec le pied, non, non. Moi, je dis, comment ils font? Ils ont un troisième bras ou quoi? Alors, j'ai toujours trouvé ça curieux. Et puis, une autre chose que je voyais, c'est que les hommes, eh bien, se retrouvaient sur des petits murets au bord de la route, tout le temps, toute la journée. Je dis, ils parlent de quoi? Toute la journée. Écoute, les combats de coq. Ah bon? Et puis, une autre chose que j'ai trouvé curieux, c'était le fait que les jeunes n'étaient pas du tout complexés de montrer leur amour en public. Et ici, de temps en temps, on voit un jeune couple qui se font un petit bisou dans la rue. C'est bien gentil. À La Réunion, c'est bien pire que ça. Je me souviens, j'étais derrière un parking de centre commercial où j'étais à la pêche. C'était un coin de pêche, apparemment, qui était bon. J'ai jamais rien attrapé là, mais bon. Et puis alors un jour, je suis allé là avec mon matos. Et puis là, je lance ma ligne. Et puis, juste derrière moi, il y avait un petit muret. Et puis ensuite, il y avait le parking. Et puis, juste derrière moi, il y a un gars qui arrive avec sa fille. Et puis, il prend sa fille et il la pose sur le muret. Et ensuite, eh bien, ils se jettent l'un sur l'autre. Et ils ont des prises de combat de catch impressionnantes. Impressionnantes. Et alors, moi, je les ai vus comme ça. Ils allaient à fond, tu vois. Alors. Et ça a duré 2 heures, ce truc. 2 heures. Et moi, j'avais pas de touche. Et puis alors, tu sais, quand t'as pas de touche, tu cherches à regarder. Ils étaient attirés. Non, mais ils étaient attirés. Non. Rodolphe n'a jamais été comme ça avec vous, ni. Non, non, il garde les plus beaux baisers pour chez eux. Tu vois. Mais est-ce qu'on comprend que Dieu a mis quelque chose en nous qui nous attire? En fait, pourquoi vous êtes là? Pourquoi vous êtes là? Est-ce qu'Antoine a essayé de vous acheter? Est-ce qu'il a dit, si vous venez à mon peps, eh bien, je vous donne 3 prophéties? Si vous venez à mon peps, je vous donnerai un titre, évêque. Non, mais alors pourquoi vous êtes là? C'est que, j'ai compris, vous n'avez vraiment rien d'autre à faire. Vous vous ennuyez à la maison, vous dites, écoute, on va aller faire un tour à Lille, on va aller boire du café avec Antoine et Christian. Non, non, vous êtes là, non, vous êtes là, parce que vous êtes attiré par cet homme-là. Vous voulez être dans son sillage. Vous voulez être au bénéfice de sa largesse, de sa générosité, de son amour de père. Combien d'entre vous le considèrent comme père spirituel? Beaucoup d'entre vous. Philippe, j'ai vu ta main. Et qui vous a demandé de faire de lui un père spirituel? Vous avez été attiré. C'est pour ça que vous êtes là. Et c'est comme ça que Dieu constitue des équipes. C'est comme ça que Dieu constitue des familles. Par cette force puissante, spirituelle, d'attraction, je veux être avec lui, avec elle, avec eux, parce que j'aime ce que je vois, je me retrouve dans ce que je vois chez eux, et je ne veux pas passer à côté de la chance que Dieu me donne. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu. Et si vous êtes là aujourd'hui, eh bien, c'est parce que vous avez connu une œuvre de Dieu qui vous a attiré jusqu'ici pour faire partie de cette équipe et cette famille. Je voulais vous le dire aujourd'hui. J'avais besoin de vous le dire aujourd'hui. Votre présence ici aujourd'hui est une preuve d'un Dieu qui agit même jusqu'à aujourd'hui. Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis, Jean 5, 17. Et la preuve, c'est que votre présence ici qui fait que, eh bien, vous avez répondu à une œuvre de Dieu. Thierry, Théo, l'évangélisation dépend de ce principe. Sans quoi, l'évangélisation, c'est terrible. Ceux qui pensent que c'est à eux de changer les autres, eh bien, ils durent jamais très longtemps dans l'évangile. S'ils pensent qu'avec mes versets et mon témoignage, et puis mon habilité et mon expérience, je vais changer quelqu'un, eh bien, ils vont se casser les dents très vite. Et ce sera très vite fini. Et après, ils vont dire, ben, je vais aller rejoindre la chorale. Je vais aller me perdre dans une chorale. C'est plus mon ministère, parce qu'ils n'ont pas compris. Ils travaillent pour Dieu quand ils devraient travailler, avec un Dieu agissant. Agissant. Dieu attire. Et la condition pour que les hommes soient attirés, c'est que Jésus soit élevé. Est-ce que vous avez vu ça dans Jean 12? Que si, quand j'aurais été élevé au-dessus de la terre, Jésus a dit, j'attirerai tout homme. C'est le rêve, hein, que Dieu attire tout homme. Et alors, dit la condition, c'est élever Jésus. Moi, à une certaine époque, quand j'étais beaucoup plus jeune, eh bien, il y avait une notion que, eh bien, nous, chrétiens, on devait élever Jésus, et puis on élevait Jésus avec nos chants. Il y avait plusieurs chants à l'époque où on disait élever Jésus, et on disait, en chantant ces chants-là, eh bien, on élève Jésus, et puis en élevant Jésus, le Saint-Esprit va agir. Tout ce que nous, on doit faire, c'est ouvrir les portes et dire, bienvenue. Et que les gens allaient se convertir comme ça, sans évangile. Sans annonce, c'est un message, que juste sous la puissance du Saint-Esprit, parce que nous avons élevé Jésus. Mais Luc 12, 31, 32, 33, nous dit que ce n'est pas les chrétiens qui élèvent Jésus, c'est les Romains, c'est les Juifs. Ils parlaient de sa mort sur une croix. Ça veut dire que la condition, elle est remplie. Elle est remplie. Il n'y a pas une autre condition qui a besoin d'être remplie pour que Dieu agisse pour attirer des gens à lui. Ça veut dire que les premiers chrétiens, forts de cette vérité, comprenant que Dieu était avec eux, eh bien, ils sont allés. Et moi, j'aime ce verset dans Marc 16, verset 20. Regardez ça. Bon, il n'y a rien. Ah, voilà. Et ils s'en allèrent, prêchés partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Alors, il travaillait avec eux et il travaillait avec eux. Alors, est-ce que le Seigneur travaille avec toi? Ah. Ah, est-ce que vous allez partout prêcher? Ah. Tout est lié. Hein? Tout est lié. Alors, mais imaginez que Dieu décide de ne pas agir. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Si Père et Jésus, il leur dit, écoute, depuis le temps qu'on agit, je crois qu'on va faire une pause. Hein? Il parle comme certains chrétiens. Je crois qu'on va faire un break. Quelqu'un m'a dit dernièrement, je vais prendre du recul. Tu prends du recul, c'est que tu vas perdre avancer. Ah non, je vais avancer en prenant du recul. C'est tordu, les chrétiens, parfois. Hein? Je vais avancer en prenant du recul. Alors, qu'est-ce qu'on fait si tout d'un coup, Dieu décide de ne pas agir avec nous? Et il dit, maintenant, ben, débrouillez-vous, vous attendez le retour de Jésus. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait, là? Qu'est-ce qu'on fait? On invente des jeux comme question pour un champion biblique. Ou bien, allez, Antoine, voilà ce qu'on peut faire. J'ai une idée. On fait encore des pastorales. Ah ben oui, si on ne sait pas quoi faire, on fait une autre pastorale. Et comme ça, on peut se retrouver, et puis on discute, et puis on partage, et puis, oui, bon, voilà, il y a 2 heures qui sont passées, maintenant, on est plus proche du retour de Jésus, c'est bien. Ou bien, tiens, j'ai une autre idée, Georges. Et si on constituait une nouvelle commission, hein, une commission pour réfléchir? Ah non, en France, on est des champions de commission pour réfléchir. Alors moi, je leur dis, vous réfléchissez sur quoi? Oh, un peu tout. On n'est pas fermé, hein? Propose-nous quelque chose et on va y réfléchir. Pourquoi? Parce qu'on est français, nous, on aime réfléchir. Et ça nous permet de faire passer le temps en attendant le retour de Jésus, tu vois. Quand en fait, il y a une aventure passionnante qui nous attend. Moi, je refuse de travailler pour Dieu. C'est passionnant. C'est passionnant. Moi, je suis un fou d'adrénaline. J'aime le goût du risque. Antoine est un peu comme ça aussi, tu vois. Et on a des trucs qui se passent là. On a eu des belles conversions cette année. Ah, Une belle conversion. Dimanche de Pâques, c'était au mois de mai, Pâques, hein? Avril. Ah, fin avril, d'accord. En face, nous, on fait notre culte évangélique dans une chapelle catholique. Là, c'est vrai que c'est un peu embêtant dans le moment de louange, tu vois, quand tu es en train de louer le Seigneur comme ça, et tu ouvres tes yeux, et il y a Marie qui fait ça. Là, c'est un peu embêtant. Donc, on a réglé le problème en mettant l'écran pour les paroles des chants devant Marie. Tu vois. Alors, ça n'a pas plu aux paroissiens, mais tant pis. Hein. Ils s'en sont remis. Tu vois. Je dis, c'est soit Marie, soit le tabernacle où il y a Jésus. Alors, choisissez. En tout cas, en face de la chapelle qu'on utilise maintenant, bientôt depuis 5 ans, pour notre culte de dimanche, eh bien, il y a des appartements en location. On est vraiment à côté de la plage, donc les gens viennent en vacances là, d'autres endroits de l'île. Et puis, ce que j'ai appris, c'est qu'il y avait deux dames, une tante et puis sa nièce déjà adulte. Et ils étaient en vacances dans un de ces appartements en face de l'église. Et puis, ils ont dit, écoute, on n'est pas très pratiquante, mais comme c'est le dimanche de Pâques, ce serait quand même important qu'on aille à la messe. Et puis, comme il y a une chapelle en face, eh bien, on ira à la messe en face. Ils sont arrivés, c'était une drôle de messe. C'était nous. Alors, ils étaient toutes surprises, toutes les deux. Il est un peu habillé différemment, le prêtre. Eh bien, j'ai dit, alors si vous ne voyez pas très bien au fond, là, il y a de la place ici sur le devant. Alors, ils se sont levés toutes les deux, ils sont venus sur le devant. Ils ont participé pleinement au culte. Quand j'ai fait l'appel, la nièce, elle a levé sa main, elle s'est avancée, elle a donné sa vie à Jésus. Elle est rentrée chez elle, elle a dit à son père, le père de sa fille, vivent ensemble, elle a dit, je suis différente. Elle qui n'avait pas conduit sa voiture depuis 4 ans par peur de la route, elle a pris sa voiture et elle est partie. Elle a commencé à conduire la nuit partout. Et le concubin, lui, qu'est-ce qui s'est passé? Elle était en bise-bise avec son père, elle prend le téléphone, elle appelle, « Papa, je t'invite à déjeuner. » Le père, tenez-vous, ma fille, elle a réconcilié avec son père. Elle vient tous les dimanches, dans les moments de louange. Elle a 5 mois de conversion, dans les moments de louange, elle est là, les larmes qui coulent, elle est là, elle aime Jésus de tout son cœur, son visage rayonnant, rempli de joie. J'ai dit, c'est pas beau ça? Oh ben tu sais, oh. Tu sais, tu vas dans beaucoup d'églises évangéliques et tu dis, qui voudrait donner un témoignage de conversion? Il y a une grand-mère qui lève la main. Ben, sœur, venez. Ah ben, il y a 20 ans. Non, c'était pas 20 ans, c'était il y a 30 ans. Je dis, c'est un peu loin quand même. Tu vois, tu n'as pas quelque chose un peu plus frais? Comme la semaine dernière, ça, ce serait pas mal, ça. Ah non, les conversions, c'était une autre génération, ça. Aujourd'hui, eh ben on gère. On gère. On fait un travail pour Dieu, on gère. Eh bien, vous pouvez gérer, mais moi, je vais gagner. Je veux vivre cette aventure passionnante avec un Dieu qui agit jusqu'à présent. Moi aussi, j'agis. Moi, je mettrai, moi aussi, j'agis bis. Parce que quand Jésus dit ça, il parle de lui. Mais moi, je me mets dans ce verset. Mon Père agit jusqu'à aujourd'hui, moi aussi j'agis, et moi aussi j'agis bis. Bon, vous me comprenez. Je me mets dans ce verset. Parce que je veux agir avec un père qui agit, avec un fils qui agit. Et vous savez, c'est là pour nous. Vous savez, quand j'allais chaque année pour faire des missions à l'île de la Réunion, eh bien, j'entendais toujours ces histoires fabuleuses de pêche. Et puis, moi qui aime la pêche, je disais, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait m'amener à la pêche à la Réunion? Parce que j'avais des superbes photos de beaux poissons que j'avais pris dans le monde entier, là où j'allais. Et puis, j'étais allé plusieurs fois à la Réunion, je n'avais pas une seule photo d'un poisson pris à la Réunion. Pas une. Je n'étais pas content. Alors, je disais, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'amener pêcher? Alors, il disait, oui, on t'amène pêcher. Jamais rien pris. Alors, une fois, je me suis fâché et j'ai dit au pasteur, écoute, tu me trouves quelqu'un qui a un bateau qui m'amène au large pour essayer de pêcher au gros, tu vois. Alors, j'arrive pour la mission et le pasteur, il m'annonce que quelqu'un dans l'église avait organisé une journée de pêche pour m'amener au large pour faire la pêche au gros. Ah, c'est bon maintenant, on est sérieux, tu vois. Et donc, on est parti. Le jour venu, on est parti au large. Oh, quel jour. Oh, j'ai pris un thon. Non, peut-être pas. Quand même. J'ai pris un barracuda, comme ça. Et j'ai des photos de pêche, comme ça, que j'ai mis sur mon mur. Oh. Mais pendant toutes ces années où je ne prenais rien, ces poissons m'attendaient au large. Ils étaient là. Mais là où j'allais à la pêche, il n'y avait rien. Au bord, où il n'y avait pas de profondeur, où il n'y avait pas de poissons. On m'amenait là où il n'y avait rien. Et alors je peux passer des heures et des heures à rien attraper. Et après je dis, il n'y a rien dans cet océan. Non, ils ne sont pas là. Ils sont là, ils t'attendent. Mais j'ai besoin de me rendre là où ils sont. Si je ne me rends pas là où ils sont, après je peux pleurer tout ce que je veux. Ça ne va rien changer. Alors arrêtez de pleurer. Arrêtez de pleurer qu'il n'y a pas de conversion chez vous. Mais rendez-vous là où ils sont. Là où le Père attire. Là où les gens commencent à sentir leurs besoins. Alors, c'est pas celui-là, c'est pas celui-là, c'est pas celui-là. C'est peut-être pas celui-là, c'est peut-être pas celui-là, c'est peut-être pas celui-là. Concentre. Va chercher des manifestations, des indications qu'il est attiré. Parce que sans quoi, personne viendra à Jésus. C'est lui qui le dit. Alors, ça veut dire que si Dieu agit dans telle ou telle personne, eh bien, il faut pouvoir le repérer et aller le chercher. Alors arrêtons de dire, le prochain qui va se convertir, c'est lui. Tu ne le sais pas, tu ne le sais pas. Mais tu peux simplement dire, mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi j'agis. Jean 5, 17. J'ai terminé avec une simple question que j'aimerais vous poser. Es-tu un chrétien de l'Ascension ou es-tu un chrétien de la Pentecôte? Vous allez dire, c'est une question piège. Ouais. Un chrétien de l'Ascension. Tiens, qu'est-ce que ça peut bien être? Les disciples étaient sur le mont des Oliviers. Jésus leur avait dit qu'ils repartaient vers le Père. Le jour J est arrivé, ils sentaient que, ils sont montés avec Jésus, ils n'allaient plus redescendre avec Jésus. Un peu solennel. Jésus commence à être emporté dans le ciel. Et maintenant, il n'y a plus Jésus. Il y a des anges qui arrivent. On est perdant. Hein. Quand deux anges remplacent Jésus, on est perdant. Regardez ce que les anges disent à ces disciples qui sont. Acte 1, 11. Et il dit, homme galiléen, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu en allant au ciel. Mais pourquoi arrêtez-vous à regarder le ciel? Ne sois pas un chrétien qui regarde le ciel. Un chrétien de l'Ascension, c'est un chrétien qui est là en train de dire, Seigneur, viens, viens Seigneur, viens. Oh Jésus, Maranatha, Maranatha, viens vite, secours-nous, viens faire quelque chose. Viens dans notre situation. Seigneur, on est tellement pauvres, il n'y a rien qui se passe. Viens! Quelques semaines plus tard, les chrétiens de l'Ascension qui regardaient le ciel, le regard porté sur le ciel, languissants, espérants, qui n'avaient pas Jésus avec eux, ils sont devenus des chrétiens de la Pentecôte, remplis de l'Esprit de Dieu. Leur premier réflexe, maintenant rempli de l'Esprit de Dieu, ce n'était pas de monter sur le toit pour regarder le ciel de plus près. Ah oui, on est quand même plus haut que le mont des Oliviers sur ce toit. Ils sont montés sur le ciel pour maintenant mieux voir la foule. La Bible dit que sur le toit, ce jour de la Pentecôte, ceux qui rêvaient en regardant le ciel, eh bien maintenant avaient le regard porté sur les gens, sur la foule. C'était la foule qui remplissait la vue. Pourquoi? Parce que Dieu, par l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui, nous pouvons être de ceux qui regardent dans le ciel en espérant que quelque chose viendra. Ou bien on peut être rempli de l'esprit et regarder la foule. Et en regardant la foule, on a un message pour elle. Et l'œuvre de Dieu se fera dans le cœur. Parce que mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi, j'agis. Jean 5, 17.